Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Camille Vieille-Case. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, vous êtes élue à la ville de Cachan, dont la maire est Hélène de Comarmont, qui a été réélue récemment en 2020. Et vous êtes en charge de la participation citoyenne et initiative locale dont nous avons beaucoup parlé dans l'interview numéro 1. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de vos grands projets et surtout le projet campus et le projet de gare, parce que vous êtes quand même vraiment fourni un projet fabuleux et ça ne doit pas être facile de chercher, de trouver les équipes. Vous pouvez me dire où en sont ces deux projets ?
Ben, c'est déjà extrêmement stimulant de se retrouver dans une ville grand parisienne qui a deux énormes projets qui construisent, façonnent et son avenir et son identité. Alors, l'écoquartier de la gare est un quartier qui, à la faveur de l'arrivée du Grand Paris, à l'endroit même où nous avons déjà une station de gare du RERB, va voir émerger un quartier, un écoquartier de 32 000 m2, mixte
formidable.
Totalement, oui, avec un vrai quartier qui va naître à la jonction entre deux autres morceaux de ville. Nous en sommes actuellement à la phase candidature.
Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup de candidats et que c'était pas évident de choisir les équipes.
Ah, ça y est, c'est là aussi c'est stimulant. On a eu énormément de candidatures et nous allons basculer dans les prochaines semaines dans une phase offre dans laquelle 3 à 5 groupements seront retenus pour travailler avec une désignation à la fin de l'année et le lancement opérationnel des choses l'année prochaine. Donc
c'est des équipes pluridisciplinaires qui sont déjà complètement constitué avec archi, urbain, paysagiste, etc. Et le choix se fait en corrélation avec la SGP et les habitants.
Alors, tout à fait. Nous sommes en co-maîtrise d'ouvrage avec la Société du Grand Paris, ce qui est d'ailleurs un process un peu inédit, alors pour la ville de Cachan, bien évidemment, mais pour la Société du Grand Paris aussi, qui n'a pas eu l'habitude de fonctionner comme ça avec les villes, sur la création de ce quartier, avec un jury citoyen qui est en cours de constitution et qui sera appelé à participer à hauteur de 10% de la notation finale.
Oui, ce qui est quand même déjà étonnant.
Oui, oui, oui. Et on est ravis et fiers de pouvoir porter cette démarche. Et que la Société du Grand Paris nous accompagne sur ce point. Donc voilà, nous avons une démarche de plusieurs mois de travail avec les groupements qui vont rentrer dans cette phase offre dans les prochaines semaines pour construire une vitrine qui sera, on l'espère, exemplaire du point de vue environnemental, énergétique, écologique et puis participatif.
On sera très attentif et je me permettrai, le cas échéant, peut-être l'année prochaine, de vous recevoir et d'essayer de comprendre comment vous avez justement choisi ces candidats, cette équipe, et comment vous commencez justement la construction, la co-construction de cet écoquartier. Je voudrais aussi que vous nous parliez de campus, parce que c'est quand même formidable, cette concentration d'écoles, d'énergie, d'intelligence. Racontez-moi.
Alors oui, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre sur ce site de plus de 11 hectares, hein, qui est le campus de Cachan, qui accueillait précédemment l'ENS Cachan, qui
Bien
est
sûr.
Parti cet été, que tout le monde connaît.
Ce qui n'était pas évident.
Non, ce qui a été une rupture fondamentale dans la destinée universitaire de recherche de ce site, mais d'une part avec la présence aussi de l'École supérieure des travaux publics, de l'ESTP, qui a
décidé de rester.
Tout à fait, qui a même relocalisé plus largement l'arrivée de nouvelles écoles, l'École polytechnique féminine de Sceaux, les CAM-EPMI, le GIMAFORP, avec la création d'une école d'intelligence artificielle, qui sera la première de France. Bah, nous sommes aux côtés de l'IUT en train de reconstruire tout un pôle d'excellence.
Donc ça veut dire qu'il y a une proposition de différentes, c'est-à-dire et ingénieurs, et IUT, et collège-lycée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un panel d'ouverture sur les âges et les savoirs très différents ?
Tout à fait. Alors, très différents, je pense qu'il y aura une coloration sur les industries de demain, scientifiques, évidemment, avec la volonté aussi d'accompagner la recherche. Mais surtout, ce campus Cachan a vocation à redevenir ouvert sur la ville, alors qu'aujourd'hui, les Cachanaises, les Cachanais ne le connaissent pas à l'intérieur.
Bien sûr, c'est complètement
un site fermé.
Fermé.
Voilà, alors fermé, on peut le traverser, mais les gens ne se l'autorisent pas. Et nous sommes précisément en consultation aménageur actuellement et un aménageur sera retenu dans les toutes prochaines semaines qui devra intervenir notamment sur la qualification des espaces publics et la réouverture de ce site sur la ville pour en faire un véritable poumon vert au
sud
de la ville.
Donc là aussi, ça va être des espaces publics partagés.
Tout à fait, partagé entre les étudiants, un pôle logement et avec des habitants, des commerces, et puis l'ensemble des Cachanaises et des Cachanais, notamment ceux des quartiers sud de la ville, qui sont des quartiers plus globalement d'habitat social et qui demain
qui
pourront...
Qui se sentaient peut-être exclus
peut-être coupés d'une partie de la ville aussi, parce que c'est un site stratégique, le campus, qui est un peu la rotule avec les quartiers nord et les quartiers centre-ville. Voilà.
Alors, ça c'est vraiment, ça m'amène à vous poser la question des grands projets, puisqu'aujourd'hui, on sait que vous êtes impliqué en tant qu'élu dans les grands projets de la ville de Cachan, mais vous êtes aussi impliqué en tant que directeur territorial sud et est chez GPA. Le grand projet aujourd'hui, est-ce qu'il ne se décline pas d'une manière très différente dans sa temporalité? Avant, on avait des grands projets, des axes sur 15 ans, 20 ans, bon, bonhomme à l'an, ça avançait. Le temps se rétrécit, les exigences sont de plus en plus importantes. Comment fait-on pour travailler cette modularité, cette temporalité?
Ça pose, c'est un vaste débat, mais ça pose beaucoup d'enjeux. Je pense que effectivement, aujourd'hui, la tension est toujours plus vive entre les temporalités des uns et des autres, c'est-à-dire des différents acteurs qui vivent ce projet, qui le construisent ou qui vont y vivre concrètement demain. Donc entre les temporalités des collectivités qui ont des réalités électorales, celles des opérateurs, celles des architectes. Et celle des usagers, des habitants, qui sont dans l'exigence de l'immédiateté, ou en tout cas de la mise en perspective qui leur permet d'appréhender ce que sera leur cadre de vie dans les prochaines années. Donc il faut réussir à conjuguer ces temporalités en peut-être déjà respectant la place des uns et des autres dans l'acte de construire. Et je pense que c'est quelque chose qui réinterroge le positionnement de tous ces acteurs.
Dont les architectes.
Dont les architectes.
Effectivement, pendant longtemps, dans les AC, où on a considéré que l'aménageur et les promoteurs étaient, on va dire, le socle du savoir et que les urbanistes et paysagistes qui intervenaient, les architectes qui intervenaient, devaient quelque part garder leur place qui était de faire ce qui était souhaité par la collectivité. Vous avez un avis différent sur les architectes,
hein. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, pour qu'un projet réussisse, pour qu'il avance, au-delà de la dimension participative, c'est que il soit le plus contextualisé possible. J'ai la conviction qu'un...
Et pas du concept, du contexte.
Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'acte de construire passe avant tout par une bonne compréhension du lieu, de l'identité, des ambiances, de la réalité physique du lieu où il vient s'installer.
Ça veut dire les architectes humanistes, hein ?
Ça veut dire les architectes humanistes, ça veut dire les architectes qui ont bien les deux pieds sur le terrain, dans la terre, pour bien comprendre qu'ils ne sont pas là pour venir faire un geste extraterritorialisé, mais qu'ils viennent accompagner la création de lieux de vie au sein d'un territoire qui préexiste et qui va venir accueillir ce projet. Et
je vais faire une petite boutade, vous m'en excuserez par avance, c'est que parfois les architectes font des gestes parce que les élus souhaitent des architectes qui font des gestes.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a eu cette dimension-là qui peut-être est un petit peu maintenant mise en sommeil.
Mais ça n'interdit pas les gestes et ça peut faire partie d'un contexte
bien
que d'être
sûr
dans la rupture. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'il faut avant tout contextualiser les choses. Après, la décision sera prise d'aller dans un sens ou dans un autre et elle se prendra avec les élus, bien évidemment, qui sont légitimes à prendre la décision, en lien avec les opérateurs, mais pas dans une contrainte de relations financières qui viendrait pressuriser avant toute chose les architectes et donc la capacité de contextualiser pour bien penser le projet, et puis les habitants, parce que c'est essentiel de ressentir le pouls du terrain dans lequel on vient s'inscrire.
Alors, vous venez de parler quelque part de la dimension financière. Est-ce à dire que, justement, les fonciers dans les opérations en général d'aménagement doivent être bordées. Le prix des fonciers doit être vraiment super encadré de telle manière que l'architecture, les matériaux et le contexte puissent vraiment prendre son envol.
On est au cœur de la problématique et de l'équation difficile, financière, de tout projet urbain aujourd'hui. Et ça pose plus globalement d'ailleurs, et je crois que c'est le vrai débat qui s'ouvre à nous aujourd'hui, qui est déjà posé, mais qui va prendre, je pense, une acuité politique dans le débat public, qui est celle de la densité. Quand en parallèle, on évoque également la problématique de l'artificialisation des sols, et que l'acte de construire est mis en danger aujourd'hui, dans une période où pourtant la crise sociale et la crise du logement n'a probablement jamais été aussi forte et où l'inquiétude, non seulement pour les décideurs publics ou les architectes ou les promoteurs,
cet arrêt
aussi...
pendant deux ans là qu'on va avoir suite aux élections.
Oui, mais aussi parce qu'aujourd'hui le terme de densité fait peur. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas d'un côté considérer qu'il ne faut pas artificialiser de manière irraisonnée les sols et en même temps refuser d'aller densifier par ailleurs. Donc on peut évoquer autrement les choses si le mot fait peur, et l'intensité urbaine, voilà exactement, est d'une certaine manière un moyen
d'aller... Mais tout ça, c'est un vocabulaire de professionnel. Comment fait-on pour justement avoir cette acceptabilité?
Dans le dialogue, dans l'appropriation, dans la capacité à montrer aussi que la densité, c'est une autre réalité que celle que les gens peuvent avoir. C'est en revalorisant aussi les aménités de la vie en commun, de la vie en ville, la vie culturelle, de l'animation, en recréant des communs dans les espaces, en probablement aussi réinventant les manières de faire. Je pense que la ville résiliente est un des enjeux particulièrement forts pour... penser aussi, pour revenir à la problématique du foncier, nos équations demain, c'est-à-dire que les espaces créés doivent pouvoir avoir plusieurs usages, plusieurs vies dans leur propre vie et dans le temps. Il y a un certain nombre de choses à repartager et c'est une mauvaise période pour l'acte de construire, mais je pense que un nouveau pacte entre les différents acteurs que j'évoquais doit être de nature à pouvoir avancer. Et je rajouterais un point. On a une exigence et une responsabilité énorme dans la période actuelle. On a des millions de familles qui soit n'ont pas de toit, soit vivent extrêmement mal dans des conditions de précarité énergétique insupportables. Et que il n'est pas entendable de se dire qu'aujourd'hui, il ne faut ni densifier, ni artificialiser, et que donc la question...
Ni reconstruire la ville sur la ville, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de parler, je pense quand même une prochaine fois peut-être, de la réhabilitation et du travail à faire de la ville sur la ville, et intensifier ces constructions dans des lieux où elles sont déjà existantes et entre guillemets, utiliser ces possibilités de surélévation pour pouvoir réaménager ce bâti existant.
Oui, tout à fait. C'est vrai dans les grandes métropoles, c'est vrai aussi dans les villes moyennes et dans les petites villes où il y a beaucoup de logements vacants sur lesquels on peut travailler. Effectivement, refaire la ville sur elle-même, c'est une manière intelligente de poser aussi les choses et d'accompagner la réacceptation et la réappropriation de l'acte de construire.
Une prochaine fois, je pense qu'on n'a pas encore vu tous les sujets, mais
je reviendrai avec plaisir, Myriam.
À bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.